Vous écoutez le Trèfle, le podcast francophone des Boston Celtics.
À tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Trèfle. Titouan au micro pour vous accompagner. Vous avez eu récemment la review de la série Celtics Heat et on est aujourd'hui pour parler. Alors là, on enregistre tout de suite après le match Cleveland-Orlando qui a vu du coup la victoire des Cavs. Et pour m'accompagner aujourd'hui dans cet épisode de preview, j'ai avec moi Azad. Salut Azad, comment tu vas ?
Eh ben, en pleine forme. Dimanche soir, je vous enregistre bon, dimanche soir, 22h40, c'est un peu rude un peu pour finir la semaine, mais en vrai, je pense que c'est le bon timing vu que la série va vite commencer. Donc, bon timing, content d'enregistrer l'épisode. Ça faisait un moment que je n'étais pas venu sur le podcast, donc très content d'être là.
Ouais, et alors, avant d'introduire la deuxième personne, le deuxième intervenant, c'est très bien que tu parles du fait que ça fait longtemps que tu n'avais pas été sur le podcast, parce que par contre, tu n'as pas chômé. Je pense qu'on peut continuer à se faire de la pub là-dessus. C'est évidemment, je fais une petite pub, comme l'a fait Vincent dans l'épisode précédent, une petite pub pour notre chaîne YouTube qu'on a créée récemment, et dont Azad est le principal fournisseur de contenu pour l'instant, notamment sur les vidéos d'analyse. Donc n'hésitez pas à aller voir ça, je mettrai les liens dans la description de l'épisode. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne YouTube et à aller voir toutes ces vidéos d'analyse évidemment de très bonne qualité. Je crois que tu n'as eu que des retours positifs quasiment, à part tes petits problèmes de son au début.
Ouais, mais c'est cool d'avoir fait la chaîne YouTube, même pour avoir des commentaires sur les podcasts. Je pense qu'au fur et en fait, de manière assez surprenante, les gens écoutent aussi des podcasts sur YouTube. Et du coup, bah, c'est aussi cool pour nous parce que ça fait plus de retours en direct, vu que les gens commentent beaucoup plus sur YouTube qu'ailleurs. Donc, non, très, très content des retours et même de tester des choses. Je trouve que c'est toujours bien en vrai, de tester des trucs. Tu vois si ça marche, si ça marche pas. Il n'y a rien de grave, quoi. Donc, ouais, très cool. Très content d'être toi.
Complètement. Et donc, le troisième larron pour aujourd'hui, c'est Elias. Salut, Elias.
Salut, salut. Écoute, ouais, comme dit Azad, dimanche soir, ça fait tard, mais on est là. On s'est dit que c'était bien de le faire immédiatement, comme ça, ça partait direct. J'ai pas été aussi actif qu'Azad. Moi, je me suis contenté de regarder le Miami tomber en ruine avec un grand sourire. Et je suis prêt pour cette nouvelle série.
Très bien. On commence justement pour cette nouvelle série. Avant d'attaquer un peu, d'analyser, on va dire, le jeu, je vous propose de faire une remise dans le contexte. Donc, du coup, on va affronter les Cavs qui ont fini quatrième de la saison régulière. Ils ont eu quand même pas mal de blessés tout au long de la saison régulière. Et on les a affrontés trois fois en saison régulière, deux victoires pour une défaite, sachant qu'à chaque fois, sur les deux victoires, Evan Mobley est absent. Et sur la défaite, ils ont Max Truss et Donovan Mitchell qui sont absents. Mais la défaite, elle arrive début mars, où on sait que les Celtics, ils jouaient déjà, ils avaient déjà la tête au playoff, ils avaient déjà le first seed de garantie quasiment. Donc voilà, la première question que je voulais vous poser par rapport à ça, c'est est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à garder en tête de ces trois confrontations en saison régulière, ou est-ce que, un peu comme ce qu'on disait dans l'épisode preview face au Heat, c'est vraiment on gomme tout, on efface et on repart sur une feuille blanche?
Ouais, pour te répondre assez facilement, je pense que effectivement, comme tu le dis, les absences de Mitchell et Allen aux deux matchs précédents en décembre font que déjà c'est pas, on n'a jamais rencontré l'équipe complète, et nous en échange jouer avec les cinq titulaires, et là Kristaps Porzingis sera pas là, donc je pense que on peut pas en tirer énormément, sachant qu'on prépare pas un match de saison régulière quand on prépare une série de playoffs. Je pense qu'on on connaît un peu l'équipe, on connaît Donovan Mitchell parce qu'il est bien ami avec avec Tatum et Brown, donc on sait comment ils jouent. Après, je pense que ça va être quand même une histoire différente en playoff et on va en parler après, mais je pense que les matchs de saison régulière veulent pas dire grand-chose, sachant que bon, de toute façon, on est la meilleure équipe, ça c'est sûr. Et on a gagné deux matchs, et le match qu'on perd, c'était une catastrophe absolue, parce que je crois qu'on se fait comeback de, je sais plus, 20, 28 points, quelque chose comme ça, j'ai pas le chiffre en tête, mais c'était ridicule. Donc je pense pas qu'on peut vraiment beaucoup se baser dessus.
Ouais, Azad, vas-y, toi, ouais, pour toi, est-ce que ça devrait être, avant qu'on arrive vraiment dans le fond du jeu, est-ce que pour toi, ça devrait être une formalité, parce que, bah voilà, c'est premier contre quatrième, sachant qu'on a survolé la saison régulière. Est-ce que tu penses que le résultat de la saison régulière devrait se refléter en playoff ou pas?
En vrai, moi, les matchs que j'irais presque plus regarder, c'est pas ceux de cette année, c'est ceux de l'année dernière. Ou au début de saison de l'année dernière, du coup, ça devait être en 2022. Enfin, ça devait être genre fin d'année civile de 2022, où il y avait eu un double affrontement qui avait fini deux fois en prolongation avec Tatum qui met un dunk sur Jarrett Allen justement pour envoyer un match en prolongation à Cleveland. Et je le rappelle que l'année dernière, les affrontements entre Cleveland et Boston étaient vraiment très intéressants, même tactiquement, parce que c'est quand même deux équipes qui ont des points forts et des points faibles. Après, l'équipe a pas mal changé du côté de Boston, mais ça permettait de voir un peu comment Cleveland pouvait aussi, avec le scoring sur le backcourt, un petit peu gêner Boston. Et du coup, il y a quand même des enseignements, je pense, à avoir un petit peu. Ou à regarder du côté de la saison régulière plutôt sur ça, mais on peut même remonter ouais, au match d'il y a 2 ans. Et en réalité, les matchs sont quand même souvent serrés avec les bandes, même ceux de cette saison. En fait, le seul blowout de cette saison, c'est celui au final que Boston perd, parce qu'il y avait un blowout pour Boston, mais ils se sont fait tuer par Dean Wade. Donc, voilà. Mais dans l'idée, je pense que la série est peut-être un peu plus serrée qu'on pourrait le penser. Mais ça va beaucoup plus dépendre de Cleveland que de Boston, je pense.
Ok, bah du coup je vous propose de rentrer un peu dans l'analyse du jeu. Pour rien vous cacher, enfin pour rien cacher aux auditeurs, c'est vrai qu'on n'a pas préparé une grosse trame bien précise. On voulait juste analyser un peu le jeu offensivement et défensivement, à quoi s'attendre côté Celtics et côté Cavs. Azad, je te laisse la main. Je sais pas si tu veux. Est-ce que tu veux commencer par l'attaque, par la défense? Je sais pas par quel point exactement tu veux commencer.
Ouais, en vrai, ça va être intéressant même défensivement parce que c'est une équipe qui va quand même pas mal au cercle. Cleveland, ils ont la cinquième fréquence au cercle. Donc Boston qui va jouer sans Porzingis. Du coup, je pense que c'est important de le notifier. Va
C'est
devoir.
vrai que, désolé, je te coupe, c'est vrai qu'on a,
Vas-y, vas-y.
je me l'étais noté en point et c'est vrai qu'on a parlé, mais juste un petit point rapide sur l'infirmerie. Boston jouera sans Porzingis vraisemblablement toute la série, même si ça va jusqu'en 7. Et les Cavs devraient jouer, du moins les premiers matchs, je ne sais pas combien de temps ça a duré, mais sans Jarrett Allen aussi. Donc voilà, tu peux continuer.
Ouais, et je pense que au niveau de l'attaque, la présence de Jarrett Allen va aussi leur poser un peu de problème sur la pression au cercle parce que c'était une grosse menace sur pick and roll. Mais c'est une équipe qui va vouloir beaucoup aller au cercle. C'est une équipe qui prend peu de mi-distance en fait. C'est une équipe qui est 28e dans la zone du flotteur, 28e sur les longs mi-distance. Donc en réalité, c'est une équipe qui prend peu de tirs pas rentables et qui va pas trop jouer dans cette zone-là, alors que c'est une zone que Boston aime bien laisser aux adversaires. Et du coup, c'est là où ça va être intéressant parce que tactiquement, les shoots que Boston ont l'habitude de laisser en saison régulière, là, pour la match-up de Cleveland ne va pas les prendre, ces tirs. Et va du coup plutôt essayer d'aller au cercle ou alors peut-être d'avoir un gros volume à 3 points. On a vu que, voilà, pour battre Orlando, ils ont pas mal utilisé leur shootmaking. Il y a un passage de Sam Merrill qui les remet dans le Game 7 en fin de deuxième quart-temps. Max Truss qui re-rentre ses tirs aussi. Max Truss qui a un gros volume à 3 points qui va être très intéressant sur la série. Mitchell, Garland qui peut aussi être très efficace à 3 points. Donc je pense que la série va pas mal dépendre du shootmaking de Cleveland et de leur capacité à aller au cercle et de s'offrir des bons 3 points, parce que dans tous les cas, ils vont pas trop chercher cette zone du mi-distance. Donc ça, c'est l'enseignement sur l'attaque, entre guillemets, je pense qu'il faut garder un peu en tête. Et après, au niveau de la tactique plus en attaque, au-delà de là où est-ce qu'ils prennent leur tir, c'est une équipe qui a pas vraiment de points forts en attaque cette année. C'est une équipe qui est moyennement efficace au tir, qui perd moyennement des ballons, qui va pas vraiment au rebond offensif et qui va pas vraiment sur la ligne de lancer franc. Donc l'attaque devrait pas poser trop de problèmes si Boston arrive à bien protéger le cercle et à pas laisser des 3 points ouverts, parce qu'ils ont pas, ils font rien vraiment d'exceptionnel en attaque. C'est plutôt en défense où c'est vraiment là où ils ont peut-être plus de valeur ajoutée, entre guillemets.
Ouais, mais du coup, avec l'absence de Porzingis, on sait, est quand même assez efficace dans la protection de cercle. Est-ce que tu penses que pour pallier à son absence, on va pas devoir surcharger la raquette, quitte à laisser en fait un peu plus de shoot à 3 points, et quitte à ce qu'on perde un ou deux matchs dans la série sur un coup de chaud à 3 points, parce qu'en fait, on le sait, au niveau des shooters à 3 points, ils ont Mitchell, Garland, Struss qui peuvent mettre à 3 points. Mais on sait que le reste, ils n'ont pas non plus. Bon, il y a Sam Merrill, mais ils n'ont pas. Parmi les joueurs qui ont beaucoup de minutes, ils n'ont pas beaucoup de gros snipers. Est-ce que ça serait pas une possibilité, une stratégie, on va dire, de se dire, bah, on blinde la raquette pour limiter les drives, notamment de Garland et de Mitchell, justement. Et en gros, on prend le risque de la variance à 3 points, quoi. Ou tu penses que c'est peut-être too much?
Bah, je pense que ça dépend à qui tu vas les laisser les tirs et puis à quel point tu arrives à. En fait, faut déjà essayer de contenir les drives, je pense, avant de vouloir essayer de voir à quel point Jrue Holiday et Derrick White, qui sont censés en tout cas être parmi les meilleurs défenseurs sur les lignes arrière de NBA, là, bah, tu vas les passer au révélateur, parce que du coup, t'as 2 mecs qui vont pouvoir les tester à fond. Et du coup, si tu dois venir à deux pour gêner les drives et offrir des kick-out, surtout s'ils jouent, là, en fait, ils se mettent à jouer avec un seul intérieur, donc avec un shooter en plus. Là, par exemple, Okoro, tu vois, tu n'as pas envie de le laisser ouvert non plus à 3 points s'il commence à rentrer ses tirs, quoi. Donc, à voir comment la variance va prendre sa place là-dedans. Mais je pense que essayer de contenir les drives adverses. Et du coup, je pense qu'on va peut-être être plus sur une série de switch all où tu refuses de laisser des décalages. Et je pense que Al Horford, il va être pas mal mis aussi au révélateur dans la série. Donc ça va être très intéressant à suivre, je pense, de voir ce qu'ils vont réussir à faire Boston défensivement face à cette équipe. Parce que du coup, là, ils ont pas mal galéré contre Orlando, Cleveland offensivement. Mais Orlando a aussi vraiment beaucoup d'armes défensives. À voir si Boston pourra aussi refaire ça et remettre un petit peu dans l'embarras, quoi.
Ça marche. Elias, toi, ton avis justement sur cette partie-là, sur le côté attaque de Cleveland et du coup défense de Boston?
Ouais, bah, Hazard l'a plus ou moins dit, mais pour moi, ça va surtout passer par Derrick White et Jrue Holiday, dans le sens où on l'a vu comme contre Orlando avec Jalen Suggs et d'autres. La pression de ballon qu'ils arrivent à mettre sur Donovan Mitchell et Darius Garland, c'est ça qui fait vraiment qui leur pose problème en attaque aux Cavs. Et je pense que si et c'est aussi une question du coaching staff, hein, si on fait le choix de déployer l'énergie de la part de Jrue Holiday et Derrick White et Pritchard quand il sera sur le terrain et peut-être un peu Jaylen Brown, mais faut pas non plus trop le fatiguer. Si on fait le choix d'aller vraiment défendre fort physiquement tout le temps en suivant les deux porteurs de balle, je pense que là on peut être sur quelque chose de très intéressant. Sinon, je pense que si c'est pas ça, ça va être du switch all très basique qu'on a vu en gros l'année dernière contre Atlanta, qui n'était pas exceptionnel, mais qui peut marcher à peu près correctement avec Al Horford en 5. Je pense qu'effectivement, on va avoir quelques problèmes pour protéger le panier, mais moi, je pense pas qu'on va laisser beaucoup de 3 points ouverts parce que c'est pas trop quelque chose que Joe Mazzulla aime faire, parce que bon, on l'a très bien compris, il aime les maths et il sait que les 3 points, ça rapporte beaucoup de points. Donc pour moi, ça va plutôt être, c'est ça, du switch all et de la défense un peu maintenue sur Mitchell et Garland.
Et du coup, donc vous me dites tous les deux peut-être un peu plus de switch all. Dans cette optique-là, toujours en restant sur le côté défensif pour Boston, du coup, en termes de rotation avec Porzingis qui serait pas là, on sait que bon, Horford, voilà, il a plus 20 ans, mais c'est pas le pire des défenseurs, je trouve, sur du switch all, même si évidemment on évite les situations où il se retrouve, où il va se retrouver à devoir défendre sur Mitchell en un contre un. Mais du coup, dans la rotation intérieure, vous voyez qui peut-être plutôt du Tillman que du Cornette, je pense, qui est plus mobile, ou plutôt du Oshae Brissett en small ball 5.
Voilà, moi tout ça
Ouais,
m'inspire pas grand chose,
c'est un peu
mais
chose entre la peste et le choléra.
ouais, je sais pas trop, j'ai pas de préférence en vrai là pour le coup. En fait, je pense que défensivement je préfère Tillman, mais offensivement
Bah si vous voulez, si
c'est
vous voulez,
difficile quand même.
si vous voulez, enfin sauf si vous voulez rajouter un truc sur l'aspect défensif, sinon on peut traverser le terrain, passer sur le côté offensif. Bah un peu la même question et je vais lancer Elias en premier sur celle-là. Elias, toi un peu l'opposition notre attaque versus la défense que peut proposer les Cavs. Ouais, à quoi on peut s'attendre? Qu'est-ce qui peut te faire peur ou au contraire, qu'est-ce qui peut te donner de l'assurance, on va dire.
Moi, je pense que le truc sur lequel on va vraiment appuyer, pardon, et qui va être important, c'est qu'on va beaucoup jouer le rebond offensif, surtout si Jared Allen n'est pas là. Étonnamment, Cleveland, même si c'est une équipe qui joue à deux bigs et qui a l'air grande, c'est pas une équipe en playoff en tout cas qui est très bonne au rebond défensif. On les souvient de leur série contre les Knicks où ils s'étaient fait complètement manger. Là, c'est pareil contre le Magic. Bon, les stats sur une série playoff, on va pas les sortir parce que c'est pas représentatif, mais ils ont pas des bonnes stats de rebond défensif. Et on a vu Boston contre le Heat vraiment mettre le point d'honneur, le point d'appui sur le fait d'aller chercher des rebonds offensifs. Et je pense qu'on va générer juste beaucoup plus de possessions que les Cavs. Rien que sur ça, je pense que déjà ça va être la première stratégie de Boston, ça va être de jouer vite et générer des possessions. Et ils l'ont un peu dit déjà, hein. Jalen Brown l'a dit quand on lui a demandé qu'est-ce qui allait changer quand Kristaps Porzingis, enfin comme KP joue pas, pardon. Et il a dit ça, hein, on va jouer plus vite et peut-être un peu plus de dynamique. Et je pense que c'est ça sur lequel on va appuyer. On l'a vu encore sur ce match-là. Hein. Au début, ils ont galéré en hein, premier quart-temps contre le Magic. Ils ont encore galéré sur ça. Ils ont réussi à s'en sortir. Et je pense que les Celtics ont envie de le faire comme ils l'ont montré contre le Heat, quoi.
Ça marche. Azad, ouais, t'es en phase là-dessus ou toi tu vois autre chose?
Ouais, moi je suis pas trop inquiet de l'attaque de Boston face à la défense de Cleveland. En réalité, Boston, c'est une équipe qui ne se nourrit pas énormément au cercle en termes de panier, pas de tentative au cercle. Et bah, c'est là où Cleveland est vraiment très bon, c'est dans la protection de cercle. Donc en vrai, c'est pas quelque chose qui peut être inquiétant, je pense, pour l'attaque de Boston. Mais par contre, c'est une équipe qui laisse peu de 3 points. Donc je sais pas si c'est plutôt un choix des adversaires face à Cleveland ou si c'est vraiment une stratégie défensive. Mais c'est une équipe qui concède peu de 3 points, Cleveland. Donc à voir à quel point des Max Struss et des Okoro sur Jalen Brown et sur Tatum, mais même sur les shooters en règle générale, vont réussir à être gênant sur 3 points. Mais pour le coup, moi, ce qui va m'intéresser dans l'attaque, c'est à quel point ils vont vraiment attaquer les mismatchs. En vrai, c'est un peu l'attaque de Boston. Elle fait quand même pas mal son beurre là-dessus depuis pas mal de temps avec Jalen Brown et avec Tatum. Et là, voilà, t'as quand même beaucoup de mismatchs. En fait, je sais pas comment ils vont s'en sortir Cleveland défensivement, parce que du coup, ils vont commencer. Enfin, tu caches comment Donovan Mitchell et Darius Garland? Parce que du coup, ils vont sûrement jouer avec Okoro qui va défendre sur Tatum ou Jalen Brown et Struss du coup qui défendra sur Jalen Brown ou Tatum. Mais du coup, voilà, ça va être un peu la match-up pour les deux. Je pense que Mobley, il va être le plus proche de la raquette possible et que Al Horford, il va pas trop le respecter à 3 points et ça peut potentiellement leur coûter cher aussi. Après, il est mobile, Mobley, donc ça, il peut couvrir les deux. Mais White et Jrue Holiday, en fait, tout simplement, en eux-mêmes peuvent attaquer directement Donovan Mitchell et Darius Garland. Et du coup, ça veut dire que tu peux avoir très vite, on va peut-être avoir énormément de post-up. Par exemple, j'imagine bien une série où, en fait, tu commences énormément de possessions où, bah, le mec qui défend sur Garland, il va au post-up avec quatre mecs de l'autre côté du terrain. Tu forces une aide et tu vois ce qui se passe.
Et
Et, ouais, vas-y, vas-y.
puis en plus on est, enfin, comme tu disais, mais on est assez fort sur le chasser la match-up, si je francise ça.
Ouais.
Et du coup, je serais pas étonné que Tatum justement cherche à obtenir des switches, bah justement pour se retrouver sur Garland ou sur Mitchell. Évidemment, les Cavs ont pas envie d'avoir ça, mais je pense que ils vont chercher absolument à avoir ça. Et c'est vrai, comme tu dis, de toute façon, offensivement, même si on n'arrive pas à avoir cette match-up-là, des White ou des Jrue Holiday seraient tout à fait capables de poster un Garland ou un Mitchell, je pense. Notamment, surtout Garland, je pense, qui est un peu plus petit et surtout beaucoup moins épais physiquement que Mitchell.
Totalement.
Mais ça me fait penser un peu à ce que bah, je te fais un clin d'œil à ta vidéo, je crois que c'est la dernière d'ailleurs que tu as fait, sur notamment, ou peut-être l'avant-dernière, sur celle où tu montres à quel point on a posté Tyler Herro un nombre de fois incalculable. En fait, on l'a vraiment ciblé en défense. Et c'est vrai que quand j'ai vu les Cavs, enfin, quand on échangeait entre nous et qu'on se disait est-ce qu'on préfère avoir le Magic ou les Cavs, c'est vrai qu'au niveau des Cavs, je me suis dit l'avantage c'est que. Nous, enfin, les Celtics offensivement auront beaucoup plus de cibles, enfin de joueurs à cibler, notamment Garland et Mitchell, pour justement dans des situations un peu similaires avec ce qu'on a fait subir à Tyler Herro que le Magic qui, eux, ont, je pense, beaucoup plus de défenseurs compétents, enfin, surtout beaucoup moins de joueurs à cacher défensivement.
Ouais.
Ouais, je
Et
suis
je me
tout à fait
demande si
d'accord avec toi.
d'ailleurs, tu vois, est-ce qu'ils vont pas essayer de mettre Mobley sur Tatum comme le Heat a essayé de mettre Bam sur Tatum. Et en vrai, tu regardes en vrai dans la recherche de switch qu'ils ont fait Boston contre le Heat, ils ont pas trop essayé d'obtenir des switch pour Tatum parce qu'en réalité, bah Tatum c'est en fait le fait qu'il soit pas trop utilisé dans la série, genre il a un plus petit usage que Brown contre le Heat Tatum cette saison, enfin dans la série, mais c'est parce que bah il occupe tellement bien Bam que t'as pas forcément envie qu'il ait le ballon dans les mains ou qu'il soit switché sur un autre mec, parce que si Tatum il est switché sur un autre mec, bah du coup Bam il peut être proche de la raquette. Donc en réalité les switches ils étaient plus opérés entre Jrue, White et Brown pour attaquer Hero. Et là, potentiellement, tu vas avoir pareil. En fait, tu vas avoir le meilleur défenseur, potentiellement, ça pourrait être Mobley, en vrai, qui va être sur Brown, sur Tatum. Et du coup, après, vu que c'est pas un énorme créateur individuel de qualité, disons, Jalen Brown, lui proposer des mismatchs, en fait, bah, t'en fais un mec vachement plus efficace parce que du coup, il est quand même plutôt bon pour attaquer les mismatchs. Et en plus, j'ai trouvé qu'il était pas mal allé au drive sur ses mismatchs contre le Heat, avec pas trop de pull-up. Donc s'il continue comme ça sur Cleveland, ça peut être vraiment intéressant.
Ouais, bah, il y a deux points pour moi qui sont intéressants dans ce que tu as dit. Je pense que le premier, ça fait plus partie, on va dire, de l'épisode review du Celtics Heat. Mais je pense que c'est important de le rappeler parce qu'en plus, on a vu pas mal de trucs sur les réseaux sociaux passer. Comme quoi, Tatum voilà, était un peu timide sur cette série ou quoi que ce soit. Mais je pense que, alors, ce que les copains ont dit dans l'épisode précédent est vrai, c'est que je pense qu'il a pas forcé son talent et il n'avait pas besoin de le forcer. Mais il y a aussi le fait, comme tu l'as dit, que Bam était sur Tatum et que du coup en fait on avait tout intérêt à garder Tatum entre guillemets loin du jeu parce qu'en fait bah, un Tatum loin du jeu ça voulait dire un Bam loin du jeu et du coup ça voulait dire plus de protection de cercle et comme tu l'as très bien expliqué là à l'instant et tu l'avais aussi expliqué dans les vidéos sur YouTube où en fait bah, un Bam loin de la raquette ça fait plus de protecteur de cercle et donc bah, après c'est beaucoup plus simple pour Jrue, pour White ou pour Jalen Brown d'aller finir près du cercle. Et en fait, donc il y a ça déjà qui est important à rappeler, c'est que donc c'est pas Tatum qui a fait une petite série parce qu'il n'a pas été bon, c'est juste que on lui a demandé entre guillemets de pas être très impliqué, on va dire, dans le jeu parce que lui son rôle c'était garde Bam loin du cercle. En gros. Et vu que c'est le joueur offensivement le plus dangereux des Celtics, bah forcément il a tiré énormément Bam loin du cercle. L'autre point, je trouve important, tu as dit du coup, tu as suggéré la possibilité que les Cavs fassent la même chose en mettant Mobley sur Tatum. Mais du coup, naïvement, moi je me dis, bah est-ce que c'est une bonne idée de le faire? Parce qu'on a vu que, surtout que eux, ils n'ont pas Jarrett Allen. Je veux dire, s'ils avaient Jarrett Allen, ils pourraient se dire, bah on met Mobley sur Tatum, et comme ça on a toujours Jarrett Allen pour protéger le cercle. Sauf que là, vu qu'ils n'ont pas Jarrett Allen, est-ce que c'est vraiment une bonne idée de faire la même chose que le Heat, de mettre Mobley sur Tatum, et du coup de se dire, bah ouais, mais on va se faire, enfin Garland et Mitchell, ils vont se faire truander et il n'y aura personne pour protéger le cercle derrière. Donc tu vois, je ne sais pas si c'est vraiment une bonne solution de partir sur un Mobley loin du cercle.
Pas forcément. Moi, je n'ai pas trouvé que mettre Bam sur Tatum, ce soit forcément la meilleure idée. Tu vois,
Ah
j'aurais
ouais, c'est pour ça.
presque mis sur Brown. Mais bon, après, de toute façon, je pense que le Heat, les pauvres, ils étaient juste pas équipés pour cette série. C'est dommage, mais voilà, je pense que dans tous les cas, il y avait pas vraiment de solution pour eux.
Ouais. Elias, est-ce que toi tu vois un autre point ou est-ce que tu penses aussi que les Cavs, alors le Heat on l'a dit n'était pas assez équipé, est-ce que les Cavs sont équipés pour nous embêter ou tu penses que ouais il peut y avoir un Donovan Mitchell game mais en vrai on se dirige sur un, on parlera des pronos après mais on se dirige sur une série assez facile.
Pardon. Comme disait Azad, je pense pas qu'il y ait vraiment, enfin, en tout cas, défensivement, je pense qu'il n'y a pas grand-chose qu'ils peuvent faire pour nous gêner. Je pense qu'il va, si dans l'éventualité où Jarrett Allen joue, on ne sait pas encore à sa blessure, elle n'est pas vraiment statuée. À mon avis, il jouera pas au prochain match parce que c'est quand même, c'est une blessure aux côtes et apparemment il ne pouvait pas bouger, donc ça va pas se rétablir en 2 jours, mais il va jouer à mon avis dans la série quand même. À ce moment-là, faudra quand même pas trop rentrer dans le cliché des Celtics qui l'ont fait à certains moments, donc soit le trigger happy, on lance des 3 points à tout va et on rentre dans les vis, on va dire. Mais je trouve qu'il y a eu beaucoup de sérieux contre le Heat et je pense que, enfin, j'ai pas trop peur de ça. Sinon, effectivement, si c'est pas ça, je pense que c'est pas Donovan Mitchell, Darius Garland, Max Strus et Sam Merrill qui vont défendre les Celtics, ça c'est sûr. Donc effectivement, j'ai pas trop peur. Enfin, je pense pas qu'ils aient les armes défensives pour nous ralentir, comme tu le dis. Offensivement, ils ont de quoi peut-être un peu venir nous titiller. Mais l'année dernière contre Atlanta, on n'avait pas Derrick White, on n'avait pas Jrue Holiday, pardon, pour apporter une espèce de safety net derrière Jrue Holiday et Jaylen Brown sur la défense des guards. Donc je pense qu'on est un peu mieux équipé que l'année dernière. Et personnellement, on n'en a pas trop parlé. Moi, je pense que l'absence de Kristaps Porzingis en défense va pas être si impactante que ça, parce que enfin, je pense qu'on a de quoi faire. Et pour revenir à ce que tu disais sur Luke Kornet et Xavier Tillman au début, effectivement, peut-être que Tillman est meilleur pour du switch-all et pour défendre, enfin en défense en tout cas que Kornet. Mais je pense pas que Joe lui fasse confiance. Enfin, on l'a pas du tout vu contre Miami. Il jouait, enfin, avant que Luke Kornet revienne de blessure, donc je crois que c'était les 2 premiers matchs qu'il a pas joué. On n'a juste pas vu une rotation élargie au 5. Dès que Luke Kornet était revenu, il a joué immédiatement. Donc je pense juste que à cause de son niveau offensif, Mazzulla fait pas confiance à Tillman, donc on le verra pas. Et je pense qu'il y a moyen qu'on voit juste Kornet dans des schémas un peu plus basiques de drop sur les minutes où Horford joue pas. Et là, ça peut effectivement poser problème. Mais je pense pas que ça nous fasse perdre 4 matchs, quoi, c'est sûr.
Ok, ouais, je peux comprendre. Du coup, en fait, on devrait plus craindre. En fait, est-ce que la question que je me pose et du coup que je veux vous poser, est-ce que les seuls scénarios où on perd le match, peut-être pas la série, mais au moins quelques matchs, c'est des scénarios où en fait Tatum, Brown commence à trop shooter à 3 points, à trop rentrer un peu retomber dans leur travers, si je puis dire, et faire trop de pull-up, en fait, c'est le seul scénario où on perd des matchs, c'est ça?
Ouais, ce serait mal profiter des mismatchs en fait. Ce serait ouais. En fait, cette équipe, elle ressemble presque à une moins bonne version du Heat de l'année dernière entre guillemets, parce que du coup, t'as un très bon défenseur avec Mobley et à côté de ça, t'as un gros driver qui est Mitchell, du coup qui est pas Butler, mais qui peut être très impressionnant. Et t'as des joueurs un peu connecteur en attaque, mais avec pas vraiment de création. T'as Garland, c'est difficile de vraiment mettre un mot dessus parce qu'il avait fait une très bonne saison l'année dernière et cette année moins. Et du coup, en attaque, normalement, c'est une moyenne attaque et une très bonne défense. Donc ça ressemble un peu à ce que le Heat peut être, entre guillemets. Mais c'est là où, du coup, faut pas que Boston passe à côté de ses matchs en attaque parce que ça reste une très bonne défense. Et si t'exploites pas bien les mismatchs, tu vas pas avoir beaucoup d'occasions de dominer. Donc, faut vraiment appuyer là où ça fait mal, quoi. Et par exemple, Orlando, c'est pas quelque chose qu'ils ont réussi à faire pendant la série. Tu vois, Banchero, quand il attaquait, il obtenait un switch. Souvent, il était au milieu de la raquette. Et Banchero a tendance à faire ce que parfois Tatum et Brown font, c'est d'attaquer un mismatch par du pull-up ou un fadeaway au lieu d'aller au drive. Et c'est vrai que quand tu attaques un mismatch au milieu du terrain, ouais, c'est beaucoup plus facile de venir en aide. En fait, le mieux dans un mismatch, c'est un peu genre, c'est un peu de l'isoler, genre d'un côté vide du terrain, pour que l'aide puisse venir seulement de la baseline, mais du coup tu peux piger par une passe, ou enfin de venir que des côtés vraiment définis. Alors que si tu es au milieu, c'est beaucoup plus difficile d'attaquer un mismatch. Donc je pense que la manière dont Boston va construire un petit peu la géométrie de son terrain pour attaquer des mismatchs, ça va être le point peut-être le plus intéressant à suivre en attaque et qui va faire que tu gagnes 4-0 ou 4-3 ou que tu perds peut-être, je sais pas. On peut faire les pronos hein, si jamais on peut passer aux pronos si jamais vous voulez.
Ouais, si vous n'avez pas d'autres points, je sais pas si Elias, tu voulais aborder un autre point, mais.
Ouais, non, juste pour te répondre, ta question c'était est-ce que la seule manière de perdre c'était Tatum et Brown qui tirent à 3 points? Je pense que on n'est pas à l'abri, enfin on n'est pas à l'abri. Donovan Mitchell est quand même un joueur offensif capable d'être génial. Je pense il peut y avoir un match où il gagne tout seul, on va dire. Mais à part ça, non, je vois pas, comme dit Azad très bien, je pense que ce qui va dépendre, c'est surtout notre attaque à nous, et si on la gère bien, si on a la tête sur les épaules, ça devrait aller, quoi.
Ok, écoute, je vous propose de passer direct au prono et je vais lancer Hazard en premier parce qu'il avait l'air. Il va peut-être avoir un prono un peu différent de beaucoup de fans des Celtics.
Ah, c'est dur, j'aime pas faire les pronos. J'aime pas faire les
T'hésites
pronos.
entre 4-3 ou 3-4?
Non, je pense quand même que Boston va gagner, mais je dirais 4-2. Je pense y a un de Donovan Mitchell game que tu perds. Et il y a allez, je vais dire 4-2 Boston, mais il y a un monde où Boston gagne 4-0, mais je pense quand même plutôt côté 4-2 Boston parce que je pense que la défense peut vraiment gêner sur un match où les tirs à 3 points rentrent pas pour Boston, ça peut être très compliqué. Et plus un match où soit Donovan Mitchell, soit tous leurs shooters prennent feu. Parce que du coup, tu vois, tu as Sam Merrill qui est à 40% à 3 points, Okoro qui est à 39%, Garland c'est quand même 38% à 3 points, Mitchell qui peut aussi prendre feu, Max Strus qui a un gros volume. En vrai, tu peux te faire avoir là-dessus. Donc je vais partir sur 4 victoires pour Boston et 2 défaites. Une défaite où les 3 points rentrent pas et une autre défaite où il y a un Mitchell game ou alors il y a les role-players de Cleveland qui prennent feu.
Ça marche. De toute façon, je partais un peu. Mais moi, je resterai sur le 4-1. Parce que je pense que tu vois, un match où on défend super bien, comme vous l'avez dit, en fait, défensivement, normalement, enfin, on ne devrait pas trop avoir à craindre là-dessus. Je pense que même les matchs où offensivement, on ne rentre pas à nos 3 points. Je pense qu'on a la défense pour quand même gagner les matchs, surtout face à Cleveland qui du coup peut être un peu parfois limité en dehors de Donovan Mitchell offensivement. Mais par contre, ouais, je mets quand même une défaite parce que je pense que le Mitchell game il est un peu inévitable. C'est quand même un mec qui est incroyable et impressionnant en playoff surtout. Donc, Elias, toi tu pars sur quoi? Les sweeps?
Alors, ouais, c'est ça, c'est le sweep. Non, je tiens à dire déjà bravo à Hugo et toi-même, je crois. Vous aviez tous les deux prédit le 4-1 contre le Heat pendant la preview,
Ouais,
donc
et
la précédente. Moi,
d'ailleurs,
j'avais tenté le sweep, voilà.
j'avais dit exactement le
Vous avez dit
scénario.
Game 2?
Ouais, j'avais dit on perd le game 2 en se prenant un peu, en pensant que ça allait être trop facile et tout, parce qu'ils sont décimés. Et après, en fait, on revient chez eux au game 3 et on dit non, mais en fait, voilà, c'est plus comme l'année dernière. Et d'ailleurs, je serais pas étonné que cette année, que contre les Cavs, on fasse un peu le même scénario. Genre, on perd le game 2 ou le game 3, tu vois, vraiment où on se dit oh, c'est bon, on déroule. Et en fait, après, on se ressaisit.
Ouais. Bah écoute, au début j'aurais dit un petit 4-2, mais après j'ai réfléchi et je me suis souvenu de ce que Robin avait dit dans la review de la série précédente. Il a dit qu'il aurait bien aimé qu'on gagne deux matchs à domicile, les deux premiers, ce qui effectivement je crois n'est jamais arrivé depuis l'ère Joe Mazzulla, il me semble. Et donc en partant de ça, je me suis dit bon allez, on va gagner les deux premiers matchs, on va en perdre un à Cleveland et ça va faire 4-1. Donc 4-1, on finit à Boston pour le Game 5. Avec les bonnes habitudes, et ça permet d'être au repos assez rapidement.
Ça marche. Donc pas de sweep.
Non, pas cette fois, j'ose plus.
Ça
Je,
marche.
j'en ai fait quelques-uns des pronos sweeps, ils n'ont jamais été bons, donc voilà.
Bah du coup les gars, si est-ce que vous avez un petit truc à rajouter ou sinon je pense qu'on peut conclure là-dessus. Ça aurait été assez court. Bon, il n'y avait pas 50 000 choses à dire non plus.
Peut-être que si j'ai le temps, je retournerai voir les matchs Cleveland-Boston de cette saison et je ferai une mini vidéo pour le compte YouTube en reprenant peut-être des trucs qu'on aura dit dans le podcast. Donc voilà, à voir. Je tease un truc qui, ça se trouve, je vais jamais faire. C'est vraiment le pire
Ah,
truc à faire. Je vais me...
c'est trop tard, c'est trop tard. En plus, ça va être
T'es
enregistré,
obligé, hein.
c'est
T'es
publié.
obligé.
Maintenant, t'as plus le choix.
Oh, le blaireau. Bon bah voilà,
Ça marche.
ouais.
Ça
Désolé,
marche.
ouais. Personne que je devais voir demain, du coup, c'est bon.
Bon,
J'ai du boulot.
en tout cas, merci les gars. Donc, oui, effectivement, le premier match, c'est quand c'est dans la nuit de mardi à mercredi, si je dis pas de bêtises,
C'est
je crois de
ça, ouais.
tête. Donc, premier match de la nuit de mardi à mercredi. D'ici là, donc cet épisode-là va sortir quand vous l'écouterez probablement lundi. Enfin, oui. Ce lundi. Sinon, enfin je dis on, mais Azad du coup va essayer de temps en temps, si le temps lui permet et qu'il a ses disponibilités, on lui met pas du tout la pression, mais de temps en temps peut-être faire quelques vidéos analyses sur la chaîne YouTube. Donc voilà, comme on l'a dit, n'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne YouTube, à commenter si vous avez aimé, voilà, partager. Pour nous aider à nous faire connaître, ça fait toujours plaisir. Elias Azad, merci beaucoup de votre temps, d'avoir pris de votre dimanche soir à 23 h pour venir enregistrer une preview de Playoff NBA. Et je vous dis à la
Plaisir.
prochaine.
Merci,
À la
avec
prochaine.
plaisir. Salut, salut.
Ciao.
Who's gonna win it? The Celtics! Because there's no other reason why. The Celtics are the balls!